Début de la série finale de la Coupe Stanley, ça sera lundi entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis. Il fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Daniel Brière est avec nous. Salut, Daniel.
Salut, Jérémy.
Daniel, avant qu'on se parle de la finale de la Coupe Stanley qui débutera lundi, je veux qu'on prenne quelques instants sur la nomination du 14e entraîneur-chef chez les Sénateurs d'Ottawa, DJ Smith, je vais le dire comme il faut, 42 ans, lui qui était assistant-entraîneur avec les Leafs de Toronto, qui va donc être l'entraîneur-chef du côté des Sénateurs. Pas de Patrick Roy, pas de Jacques Martin, pas de Rick Bowness, pas de Mark Crawford, mais un jeune qui n'a pas nécessairement d'expérience comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Tes commentaires là-dessus?
Ben écoute, comme un peu tout le monde, j'imagine, j'ai été très, très surpris de la nomination de DJ Smith, surtout avec les noms qu'on entendait alentour des anciens entraîneurs très, très expérimentés. J'avais l'impression que les Sénateurs se lanceraient dans cette direction-là. Mais c'est un vent de fraîcheur du côté des Sénateurs. Un nouvel entraîneur comme ça, DJ a pas beaucoup d'expérience, mais partout où il passe, les choses vont bien. Pour tu sais, les Sénateurs, ça va être une équipe très, très jeune également. Donc, ça pourrait être bon là d'avoir un jeune entraîneur comme ça qui peut-être comprend là les jeunes. Mais quand on parle d'un Patrick Roy aussi, ça aurait été... tu sais, s'il est habitué de travailler avec les jeunes les dernières années, je pense que ça aurait été une bonne sélection aussi.
Est-ce que ça aurait été bon pour le marché d'Ottawa d'avoir un gars comme Patrick Roy derrière le banc de l'équipe?
Ben, je suis sûr que ça aurait pas nuit. Puis, écoute... Moi, je l'ai eu, Patrick, comme entraîneur. Je l'ai adoré. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il est excellent. C'est un entraîneur qu'on aime jouer pour parce qu'il démontre beaucoup ses émotions. Il n'a pas peur d'être là pour ses joueurs. Donc, ça aurait été intéressant là, d'avoir un gars comme Patrick derrière le banc, de le revoir. J'espère qu'on va le revoir un jour derrière le banc parce que c'est intéressant. Ça aurait peut-être été une... moi, je m'attendais à ce que ce soit... disons, une bonne acquisition pour les Sénateurs parce que, justement, c'est un gars qui parle très bien le français, mais j'ai pas de doute là, que la sélection de DJ Smith en est une très bonne aussi.
Daniel, dis-moi donc, écoute, Patrick Roy, j'ai l'impression qu'on en fait parfois un dieu et parfois un monstre, tu sais. On l'imagine comme une bombe à retardement, un gars qui est instable et on le sait qu'il a été un grand gardien de but dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Raconte-nous, c'est-tu une bombe à retardement? Es-tu instable? Comment il est dans la vie de tous les jours quand c'est ton coach?
Ben, écoute, il est très, très proche de ses joueurs. Il aime ça, passer beaucoup de temps avec ses joueurs, discute beaucoup. Sa communication est excellente. Puis je pense que c'est le fait de travailler avec les jeunes au niveau junior. Il a appris que tu peux avancer très loin, tu peux les faire jouer de la façon dont tu veux quand tu passes beaucoup de temps avec eux autres, quand tu leur laisses savoir que tu es sur leur bord. Donc, Patrick Roy, c'est un entraîneur comme ça. C'est une raison pourquoi il y a plusieurs de ces joueurs qui l'ont adoré au cours des années.
Daniel, si tu le veux bien, on va entendre les propos de Pierre Dorion qu'on a eu un peu plus tôt à l'émission, directeur général des Sénateurs d'Ottawa, qui nous donne les critères de sélection qui ont fait en sorte que Smith sera le nouvel entraîneur-chef des Sénateurs.
DJ, c'est quelqu'un qui, pour nous, avait toutes les qualités qu'on recherchait chez un entraîneur-chef de la Ligue nationale. Énormément travaillant, amène beaucoup de passion, amène une présence qu'on recherchait. Mais les deux choses les plus excitantes de pouvoir engager DJ Smith, c'est ses talents de communicateur et ses connaissances d'hockey. C'était pas juste l'entraîneur le plus jeune ou l'entraîneur avec le plus d'expérience, c'était d'engager le meilleur entraîneur.
Pierre Dorion nous dit que c'était d'engager le meilleur entraîneur. Pour Daniel Brière, c'est quoi un bon coach en Ligue nationale de hockey?
Ben c'est drôle parce que j'ai engagé un entraîneur justement l'an dernier moi aussi, puis t'essayes de penser c'est quoi les qualités d'un meilleur entraîneur, puis il n'y a pas de doute que travaillant c'est extrêmement important, communicateur est extrêmement important, ses connaissances de hockey. Moi je te dirais qu'une des choses qui est extrêmement importante, c'est d'être capable, comme on dit en bon québécois, de vendre ta salade. De convaincre tes joueurs de jouer pour toi. Dans le monde d'aujourd'hui, là, tous les entraîneurs ont des bons systèmes. Tous les entraîneurs, disons, savent comme on dit, là, les X et O's, à quel endroit se positionner. Les entraîneurs aujourd'hui sont très, très savants de ce côté-là. mais c'est des entraîneurs, pour moi, qui sont capables de convaincre leurs joueurs, de donner leur 100%, de jouer pour cet entraîneur-là, qui est extrêmement important. Donc, on va voir là, dans le cas de DJ Smith, s'il va être capable de vendre sa salade aux jeunes joueurs des Sénateurs.
OK, c'est intéressant comme commentaire ce que tu nous donnes. Tu dis, j'ai embauché un coach, tu as eu à passer par un processus de sélection. Quand le coach te parle, est-ce que tu te places en disant, si moi, je suis encore joueur de hockey, j'aurais le goût d'aller jouer pour lui?
Totalement. C'est une des choses dont j'essaie de me mettre dans la peau d'un joueur. Est-ce qu'il peut me vendre, disons, son savoir-faire, ses connaissances de hockey? Est-ce qu'il est bon communicateur? Est-ce qu'il est prêt à faire de l'extra pour moi? Est-ce qu'il est préparé? Derrière le banc pendant un match, comment il va se présenter aux joueurs, comment il va se présenter aux arbitres, comment il s'ajuste pendant les rencontres. Ça, c'est une autre partie très, très importante d'un entraîneur. Il doit s'ajuster d'après ce que l'autre équipe va lui lancer, que ce soit sur l'échec avant ou en jeu défensif ou sur l'avantage numérique. Donc, d'être capable de s'ajuster pendant les parties est un autre aspect pour moi très, très important d'un entraîneur.
OK, Danny, je veux en savoir davantage. Est-ce que, puis là, je fais attention parce que je veux faire aucun lien avec les candidats qui sont en poste là, pour les sénateurs d'Ottawa, ceux qui étaient sur la liste ou ceux que tu as rencontrés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, en quelque part, de se faire prendre par un peddler, par quelqu'un qui est capable d'arriver et de tellement bien vendre sa salade que quand il arrive pour de vrai, c'est pas ça nécessairement qui donne?
Oui, exactement. Tu dois faire extrêmement attention. Dans ce cas-là, c'est important d'avoir... disons, des références qui peuvent t'aider de ce côté-là, des personnes en qui t'as beaucoup de confiance, qui peuvent te dire, OK, cette personne-là est comme ci, est comme ça, surveille ci, surveille ça. Donc, c'est sûr, d'avoir des personnes qui peuvent t'aider, pas nécessairement à prendre la décision, mais des personnes qui ont connu ce candidat, tel ou tel candidat, est extrêmement important.
Maintenant, Daniel, si tu veux bien, on va parler de cette finale de la Coupe Stanley qui débutera lundi prochain. Les Bruins de Boston qui vont affronter les Blues de Saint-Louis. Peut-être juste prendre quelques instants pour revenir sur cette victoire entre les Blues et les Sharks. Les Blues, pire équipe de la Ligue nationale, s'en va en finale de la Coupe Stanley. As-tu déjà vu une histoire comme ça?
Non, c'est assez incroyable ce qui se passe du côté des Blues de Saint-Louis. Je me souviens que pendant les fêtes ou juste après les fêtes, on s'attendait à ce que les Blues vendent un peu tous leurs joueurs un peu plus âgés, les vétérans, parce que ça allait nulle part. Puis tout d'un coup, comme ça, on les voit en finale de la Coupe Stanley. C'est toute une remontée, tout un changement. C'est le fun de voir ça. Moi, je suis extrêmement content pour l'entraîneur Craig Berube que j'ai eu à Philadelphie pendant plusieurs années comme assistant entraîneur. Mais c'est toute une histoire incroyable.
Parle-moi du bonhomme, parle-moi de Berube. Tu l'as eu dans un poste d'assistant entraîneur. Là, il est entraîneur-chef. Tout le monde a acheté l'histoire de Berube. En fait, ils ont un gardien de but, en plus Bennington, ouais, qui a arrêté les rondelles. Ça l'aide beaucoup. Parle-moi de Berube.
Ben écoute, Berube, c'est un entraîneur qui était extrêmement direct, puis il était comme ça comme assistant aussi. Il n'y a pas de zone grise avec lui. C'est blanc ou c'est noir. Puis il dit exactement sa façon de penser. Puis j'imagine que c'est la même chose comme entraîneur-chef. Je suis sûr que il y a pas c'est pas toujours très, très doux et calme quand il parle aux joueurs, mais les joueurs savent exactement où ils en sont avec lui. Moi, c'est une des choses que j'ai adoré de lui là, comme assistant-entraîneur. C'est sûr qu'il a dû sûrement s'ajuster comme entraîneur-chef. Puis il y a des choses que tu peux pas faire ou que tu peux faire qui sont différents d'un poste d'assistant. Mais écoute, moi, je l'ai adoré personnellement. Puis j'ai toujours eu l'impression, puis je l'ai dit à maintes reprises à Paul Holmgren, qui était notre directeur gérant à ce moment-là, qui avait de la veine d'entraîneur-chef. Puis un jour, je serais pas surpris de l'avoir derrière un banc. Puis finalement, c'est arrivé. Sa première escapade avec les Flyers de Philadelphie n'a pas été superbe, mais je pense qu'il a appris beaucoup. Il semble avoir appris beaucoup depuis ce temps-là, puis il fait de l'excellent travail là, cette saison à Saint-Louis.
Jumelé avec une gang de gars qui ont décidé à un moment donné que tout clique en même temps. T'sais, première moitié de saison, ça chamoyait un peu dans le vestiaire. Deuxième moitié de saison, le gardien de but arrive. On y croit un peu. Et là, il y a une soirée où, hier, David Perron nous disait en onde, une soirée où on a pris 2-3 bières, la chanson Gloria arrive, là, tout le monde se met, on joue ça, ça devient un leitmotiv dans le vestiaire des Blues de Saint-Louis. Ouais. Tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, là, des fois, c'est pas arrêtable, ces histoires-là.
Ouais, puis tu sais, la confiance grandit à travers tout ça. plus on réalise que ou on pense qu'on est imbattable. Ça, ça peut aller extrêmement loin. C'est ça qu'on ressent du côté des Blues. C'est une équipe qui est en confiance. Je les regarde jouer, puis ils semblent pas avoir peur de rien. Ils vont jouer sur la route. T'sais, ils m'ont impressionné en première ronde face aux Jets de Winnipeg. À Winnipeg, on le sait, c'est un des endroits les plus difficiles à aller jouer sur la route. D'être capable de gagner le match numéro 1 quand ils perdaient de l'arrière, je crois, 1-0 pendant presque que toute la partie, de marquer deux buts très, très tard en troisième pour remporter cette partie-là. Déjà là, pour moi, là, ça a été une lumière qui s'est allumée. Je me dis, OK, eux autres, ils vont être dangereux. Puis on les a vus tout au long des séries. C'est une équipe sur la route qui joue mieux, qui semble jouer mieux sur la route qu'à la maison. Puis ils ont toujours l'air en contrôle. Pour moi, c'est une équipe qui panique pas. Même quand ils tirent de l'arrière, ils laissent pas les choses dégringoler. Puis tout le monde, tu sais, c'est pas juste l'histoire d'un joueur. On parle beaucoup de Bennington, mais quand on regarde à la défensive, c'est 3-4 gros défenseurs. À l'attaque, c'est pas juste l'histoire de Tarasenko. T'as 5-6 joueurs qui sont dangereux match après match. C'est des, on dirait des joueurs différents qui semblent jouer les héros, à part Bennington, disons, pour les Blues, de partie en partie. Donc, écoute, c'est une histoire d'équipe. C'est ça qui est le fun d'avoir.
Bon, tu dis, c'est des gars qui y croient, ça peut être dangereux, assez dangereux pour passer au travers des Bruins de Boston?
Ben écoute, ça va être probablement le plus gros test, les Bruins de Boston. Mais faut pas oublier que les Blues ont eu des gros tests depuis le début des séries. Ça n'a pas été facile. Tu sais, quand je parlais des Jets de Winnipeg, par la suite, les Stars de Dallas qui ont été excellents en séries éliminatoires, qui leur ont rendu la vie difficile. Les Sharks de San Jose, qui étaient toute une histoire avant de frapper le mur des Blues. Tu sais, quand je regarde de l'autre côté, les Bruins, ça a été beaucoup plus facile. Oui, les Maple Leafs de Toronto, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui est encore jeune. C'est une équipe qui n'a pas une très, très grosse défensive. Je crois que le gros test a été en deuxième ronde face aux Blue Jackets de Columbus, mais les Blue Jackets, ça faisait quand même plus d'une semaine qu'ils attendaient. Ils ont comme perdu leur mojo. Puis on a vu en finale de conférence que ça a été une petite marche dans le parc, comme on dit. Ça a été extrêmement facile pour les Bruins. Donc, c'est un peu le côté qui me fait peur pour les Bruins. Puis la raison pourquoi, moi, je pense que les Blues de Saint-Louis vont trouver une façon de remporter leur première Coupe Stanley.
En tout cas, une chose est sûre, si les Blues veulent gagner face aux Bruins de Boston, faut pas que tu prennes des pénalités parce que les Bruins vont te faire payer le prix en avantage numérique.
Exactement. Puis on le sait, les sifflets se font, ou les pénalités se font de plus en plus rares, plus que ça avance. Donc j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup d'avantages numériques en finale de Coupe Stanley, mais il n'y a pas de doute là, que la grosse ligne des Bruins pourrait leur faire mal. Mais moi, ce qui me donne confiance un peu de ce côté-là, puis la raison pourquoi je pense que les Blues sont peut-être mieux préparés à faire face aux Bruins que n'importe quelle autre équipe, c'est la grosseur et la profondeur en défensive des défenseurs des Blues. Tu sais qu'on doit affronter des Pietrangelo, des Pareko, des Beaumeister, Bortuzzo et Edmundson. C'est des gros bonhommes physiques, très très bons, tous très très bons défensivement. Donc ça peut, pour moi, ça peut être la clé dans cette finale de Coupe Stanley là cette année.
Daniel Brière, avant qu'on se quitte, je veux juste qu'on prenne quelques instants pour parler des Sharks de San Jose. C'est un club éclopé qui a affronté les Blues de Saint-Louis. Carlson t'a blessé, Hertel t'a blessé, Pavelski t'a blessé. Carlson, penses-tu que ce dernier va re-signer avec les Sharks de San Jose?
Ben écoute, c'est difficile à dire parce que on se demande, tu sais, que le Carlson qu'on a vu cette saison, est-ce vraiment le Carlson qu'on va avoir? Moi, c'est un peu ce qui me fait peur dans son cas, parce que sa valeur a descendu avec la saison qu'il a connue, puis le fait qu'en série il y avait de la difficulté, mais il jouait quand même. Ça a été tout un soldat, même s'il était blessé, de continuer à jouer comme ça. Je ne sais pas, moi, si les Sharks vont être prêts à lui donner, là, lui consentir le gros contrat à long terme après ce qu'ils ont vu cette année.
En terminant, il n'y a rien qui a été dit encore, mais Joe Thornton arrive sur le bord de la quarantaine. C'était peut-être sa dernière chance de penser remporter une Coupe Stanley. Tu veux une petite pensée pour Jumbo Joe?
Ben certainement. Écoute, j'ai eu la chance de jouer avec lui au championnat du monde junior en 1997. Ça fait extrêmement longtemps de ça. Mais déjà là, c'était tout un coéquipier qui avait joué le rôle de 13e attaquant pour nous. Tout le monde l'adore. À un certain moment donné, comme tout le monde, j'y ai cru. J'ai cru que c'était la saison ou l'année où Jumbo Joe remporterait sa première Coupe Stanley. Malheureusement, on n'a pas vu ça. Mais écoute, je suis un peu partagé. Je veux pas le voir finir ça en queue de poisson, sa carrière. Mais c'est tellement un beau joueur de hockey, il y en a tellement fait pour le hockey que j'aimerais peut-être ça le voir pour une autre année.
Ben, tout comme toi, Daniel Brière, on aurait aimé ça de voir encore quelques années. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous, Daniel.
Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt.